Le sommet européen s'est achevé hier à Bruxelles et les 28 dirigeants sont donc rentrés chez eux désormais. Bonjour Quentin Dickinson.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Correspondant permanent de RFI à Bruxelles. Quentin, qui cette fois-ci apparaît comme gagnant et comme perdant ?
Eh bien, incontestablement, qu'on l'adule ou qu'on le redoute, c'est Emmanuel Macron qui est sorti grand gagnant de son tout premier sommet européen. Il aura tour à tour cimenté l'axe franco-allemand, propulsé la notion d'Europe qui protège et fait la leçon aux partenaires rétifs à la solidarité en Europe centrale. Les premiers ministres belges Charles Michel et luxembourgeois Xavier Bettel sont aussi parmi les bien classés, tout comme le chef du gouvernement estonien, Jüri Ratas, qui assume dès la semaine prochaine la présidence tournante semestrielle du Conseil de l'UE. Alors, outre le Hongrais Orban et la Polonaise Szydło, c'est évidemment Theresa May, la grande perdante.
Alors, parmi les très nombreuses questions qui apparaissaient à l'ordre du jour des 28, Quentin, il y avait la relance de ce qui apparaît un peu comme l'Arlésienne, hein, l'Europe de la défense.
Oui, sous l'impulsion conjointe de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne, les 28 chefs d'État et de gouvernement ont adopté en à peine plus de 5 minutes l'embryon d'Union européenne de sécurité et de défense grâce à une disposition incluse dans le traité de Lisbonne, vieille donc déjà de 8 ans, mais restée jusque-là lettre morte. Cela fait maintenant plus de 2 mois qu'en matière militaire, le tempo s'est soudain accéléré chez les Européens. L'indifférence d'un Trump vis-à-vis de ses alliés, l'agressivité d'un Poutine vis-à-vis de ses voisins, le départ des Britanniques, hostile à toute intégration militaire de l'UE, en voilà très clairement les raisons immédiates qui rapprochent d'ailleurs l'UE et l'OTAN. Dans les 3 mois, les Européens adopteront une liste de critères d'engagement et d'objectifs de capacité à atteindre. Les forces armées des pays de l'UE participent déjà à des missions sous mandat international au Sahel, dans l'océan Indien, au Mali, en Somalie et au Kosovo, mais cela se fait au coup par coup et de façon le plus souvent contrainte financièrement. Pour y pourvoir, Jean-Claude Juncker vient de lancer un fonds européen de défense abondé à hauteur d'1,5 milliard d'euros par an dès 2020. L'Europe s'est toujours rêvée ouverte, commerçante, pacifique. Cette noble position est désormais intenable dans une ère marquée par le terrorisme, les cyberattaques, les conflits hybrides et les campagnes de désinformation. Ce n'est pas une course effrénée à l'armement, dit-on ici, mais bien un modeste rééquilibrage. En moyenne, l'UE dépense en équipement 27 000 euros par soldat, alors que les États-Unis mettent 108 000 euros. La Russie consacre 5% de son PIB à la défense, les Européens à peine 1,3%.
Alors rapidement, Quentin, on va parler de ce qui s'est moins bien passé. Le rappel alors des 4 pays d'Europe centrale et orientale avec le président français à la manœuvre.
Oui, et ces 4 pays du groupe dit de Visegrad n'ont pas spécialement goûté le diagnostic du docteur Macron qui avait détecté chez eux 2 mots préoccupants. D'abord, leur manque de solidarité politique et pratique dans la répartition des candidats réfugiés entre pays membres de l'UE. Ensuite, leur volonté de faire obstacle à tout resserrement de la directive sur les travailleurs détachés, directive dont leurs entreprises et leurs ressortissants alimentent les abus et détournements à grande échelle. En filigrane, les 4 capitales mitropiennes s'entendent aussi reprocher la propension autoritaire que prennent leurs gouvernements. En particulier en Hongrie et en Pologne.
Merci Quentin Dickinson en direct de Bruxelles.